France Inter.
Bonsoir et bienvenue dans l'écho de l'été, où que vous soyez, chez vous, quelque part sur la route ou ailleurs, chaque samedi de cet été, nous essayons de réfléchir aux grands enjeux économiques, ceux qui ont été les nôtres au cours de l'année écoulée, bien sûr, encore plus à ceux qui sont devant nous, avec des invités. Et bonne nouvelle, nous avons du temps pour le faire, plus de 35 minutes. Ce soir, un invité pour se poser une question au fond toute simple, la réindustrialisation française, j'ai réussi à le dire, miracle possible ou mirage probable. Notre invité, c'est Nicolas Dufourcq, le président de BPI France. Il sera aussi interrogé par une économiste, Nathalie Coutinet.
France Inter, l'écho de l'été, Dominique Seux.
Bonsoir à vous deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Nathalie Coutinet.
Bonsoir.
Bonsoir Nicolas Dufourcq.
Bonsoir.
Pendant une vingtaine de minutes, je vais interroger Nicolas Dufourcq et ensuite, pendant une dizaine de minutes, il y aura un échange avec Nathalie Coutinet, économiste, membre du mouvement des économistes atterrés, notamment sur les constats et les politiques économiques. Je subodore que mes deux invités n'auront pas tout à fait, ou voire pas du tout, la même analyse. Nicolas Dufourcq, vous présidez depuis sa création BPI France, la banque publique d'investissement qui fête ses 10 ans, après une carrière à la fois de haut fonctionnaire et dans des entreprises privées comme Capgemini. Vous avez notamment écrit un ouvrage très remarqué intitulé « Désindustrialisation de la France » chez Eugile Jacob, où vous essayez de comprendre ce qui s'est passé dans notre pays pendant une vingtaine d'années. Mais on va commencer par le début. Pour tous ceux qui s'intéressent à l'économie, non, mais n'en connaissent pas nécessairement tous les acteurs et les arcanes, présentez-nous votre entreprise BPI France. Qu'est-ce que c'est que cet objet? Au fond, qu'est-ce que vous faites?
Écoutez, donc BPI France est une banque publique d'investissement. Donc elle est régulée comme n'importe quelle banque, elle a les mêmes contraintes que tout le monde, mais elle reçoit de la part de l'État et de son autre actionnaire, la Caisse des dépôts et consignations, quelques moyens qui lui permettent d'exercer des missions fondamentales d'intérêt général. Alors, le rôle de BPI France est d'aider les entrepreneurs français. Point. C'est que ça. Donc on va pas aller financer l'immobilier, on va pas aller financer les particuliers, on ne finance que cette catégorie très particulière que nous adorons, les entrepreneurs, j'ai envie de dire de 7 à 77 ans. Hein.
D'accord.
Donc ça va des créateurs dans les quartiers, jusqu'aux très grandes entreprises qui ont besoin de notre soutien pour être parfaitement ancrées en France.
Oui, parce que vous êtes au capital de très très grandes entreprises,
oui,
comme Stellantis.
Comme Stellantis, comme ST Microelectronics, etc. On est au total au capital de 1000 entreprises en direct, et au travers des fonds privés que nous finançons, auxquels nous donnons des moyens d'investir, nous sommes au capital de 5000 entreprises de plus, hein, ce qui fait 6000 entreprises. Et puis nous faisons beaucoup de crédits, nous avons à peu près 200 000 clients.
Hein, voilà. Mais est-ce que vous faites un peu le travail que les banques classiques privées ne font pas?
Alors non, parce qu'on fait toujours un travail qui est en complément de ce qu'elles font. On ne fera jamais un crédit s'il n'y a pas une banque qui fait un crédit à côté. On ne fera jamais un investissement en fonds propres si nous n'avons pas un co-investisseur. On est une banque coup de pouce, en réalité, hein, un peu la banque du croc, si vous voulez dire, hein, ou le premier barreau de l'échelle. Ce qui fait que nous avons des parts de marché qui sont relativement faibles, hein, en crédit 5%, par exemple. Mais notre présence est quand même fondamentale.
Et ça existe ailleurs dans d'autres pays, ce mélange public-privé. On connaît aussi la Caisse des dépôts, qui fait ce genre de travail.
Ça existe un peu partout, sous des modèles différents. Le modèle qui nous est le plus ressemblant, c'est celui du Canada.
D'accord.
Avec la Banque de Développement du Canada, qui est comme nous, une banque avec un certain nombre d'agences locales, qui fait du crédit, des fonds propres, du conseil, de l'accompagnement des entrepreneurs canadiens. Donc c'est un peu notre banque jumelle. Hein.
Donc ça veut dire que vous sauvez des entreprises de temps en temps. On évoquait Stellantis à l'instant.
Oui.
Vous avez mis au pot quand PSA était en difficulté il y a une dizaine d'années.
Alors non, parce que nous n'étions pas au capital à cette époque-là. Nous avons racheté la participation de l'État. C'est l'État qui avait fait ce travail-là. Mais oui, quand on est actionnaire d'une entreprise et qu'elle se met à aller mal, on la soutient. Très clairement. En revanche, une entreprise qui va très mal, et de plus en plus mal, et depuis très longtemps, et dont le pronostic vital est vraiment très largement engagé, ça n'est pas le rôle de la BPI que d'aller la sauver.
Mais est-ce que, alors c'est vrai, quand on entend une banque publique d'investissement, on se dit, oh là là, on a déjà connu ça autrefois, c'est le ministre qui passe un coup de fil à Nicolas Dufourcq et lui dit, dans ma circonscription ou celle d'un de mes amis, j'ai une entreprise qui va pas très bien, est-ce que la banque, la BPI pourrait la sauver? C'est comme ça que ça se passe ou pas du tout?
Pas du tout. Et c'est comme ça que les gens pensaient que ça se passerait en 2012 quand elle a été créée. Il faut se souvenir des cris d'orfraie à l'époque, etc. Bon. En réalité, je vais vous dire, en 10 ans, j'ai dû recevoir 3 coups de fil.
Bon.
3 coups de fil. Et sur les 3, j'ai dû dire non à 2.
D'accord. Le fait que ce soit public, en fait, c'est qu'il y a une garantie de fonds publics, mais c'est tout. Voilà, il y a une coupure, il y a une muraille de Chine.
Il y a les moyens entre... de la puissance publique, mais voilà. Il y a le respect de la performance et de la culture du résultat.
Alors, si on regarde, donc vous passez au scalpel de l'économie française, vous avez un regard vraiment très large sur tout le tissu économique. Où en est-on? Où en est la situation économique en cet été de 2023? On a eu évidemment la crise du Covid, le rebond assez phénoménal en 2021, et puis... Pouf, il y a eu la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine. Où en est le tissu économique français aujourd'hui?
Alors écoutez, l'hiver 2022-2023 s'est passé beaucoup mieux que prévu. Il faut se souvenir à l'automne dernier qu'on était très inquiet sur la crise énergétique. Le gouvernement a d'ailleurs annoncé un certain nombre de dispositifs qui étaient profonds et ambitieux. Et puis finalement, on pensait que ça serait une piste noire, c'était plutôt une piste rouge. Et voire une piste bleue même. Hein. Donc on est sorti de l'hiver pas mal. Et depuis, on connaît un... léger ralentissement progressif, on va appeler ça comme ça.
Alors progressivement sur la pente descendante ou sur la pente remontante?
Ralentissement. 50% des patrons de TPE et de PME qui ont envie d'investir. Vous en avez 82% qui disent ne pas trouver à recruter. Mmh. 82%, c'est incroyable.
Éternel
problème français. Vous avez tous les entrepreneurs qui sont du monde de l'industrie qui anticipent en moyenne un taux de croissance de 2%. En revanche, dans le domaine du transport et du bâtiment, ils anticipent une stagnation à 0%. Le ralentissement vient de là.
Est-ce que la situation financière des entreprises, leur niveau de marge, parce qu'il y a une augmentation des coûts, les entreprises ont dû s'adapter, elles ont plus ou moins passé dans leur prix, sans rentrer dans la technique, mais passé dans leur prix, ces coûts, comment est-ce que le niveau de marge, de résultat des entreprises s'en est tiré? On sait que les grandes entreprises s'en sont globalement très bien tirées parce qu'elles ont des marchés mondiaux. Est-ce que le tissu profond du pays, beaucoup d'auditeurs entrepreneurs nous écoutent, ce tissu a bien résisté?
Il a bien résisté, évidemment ça dépend des filières. Il y a des filières où la pression sur les marges est considérable parce que les PME sont trop petites pour avoir un pouvoir leur permettant de pousser les prix vers les grands groupes, et c'est en particulier le cas de la filière automobile, ça c'est tout à fait certain.
Oui, les sous-traitants de l'automobile n'ont pas pu répercuter parce qu'ils sont sous la pression des deux dans l'ordre.
Absolument. En revanche, il y a d'autres filières dans lesquelles les sous-traitants ont réussi à pousser leurs prix, en tout cas une partie. Au total, aujourd'hui, les bilans des PME sont pas mauvais, honnêtement. Hein. Et par ailleurs, l'économie française reste très fortement bancarisé.
D'accord. Donc, au total, c'est un paysage qui est plutôt... On verra, évidemment, après l'été... C'est pas un paysage de crise.
Non.
Ce qui est un peu une surprise, parce qu'on se souvient du patron de l'industrie qui avait dit on aura une récession de l'ordre de 10% pour l'industrie. Ça n'a pas du tout été le cas. Il y a une difficulté à prévoir, quand même.
Il y a une grande difficulté à prévoir. En effet, on est dans des phénomènes de plus en plus complexes. Mais en même temps, il faut se dire que avec le plan de relance, qui était quand même extraordinairement profond, puis le plan France 2030, qui est également extraordinairement généreux, on est dans un keynésianisme de l'offre. Hein, et donc, si avec autant d'argent mis dans la relance, il y avait en plus une crise récessive des 10% que vous évoquez, alors il y a un énorme problème de théorie économique. Hein. Donc moi, je pense qu'en réalité, la politique économique qui a été menée a permis d'éviter ce que vous dites, hein, et elle nous amène vers un sentier qui est un sentier de ralentissement beaucoup moins prononcé en France que dans d'autres pays européens.
La réindustrialisation, on arrive à le dire, c'est toujours compliqué. Est-ce que, où en est-on sur l'industrie? Alors, on sait que le nombre d'usines qui ouvrent est supérieur à celui du nombre d'usines qui ferme. Mais on sait bien que cet indicateur est un indicateur très imparfait parce que ça mélange des usines ou 6000 usines de 10 emplois et d'autres de quelques centaines. Quelle est la situation de l'industrie française aujourd'hui, après des années de désindustrialisation sur lesquelles on viendra après?
Je pense qu'il faut d'abord commencer par l'imaginaire. L'imaginaire français était devenu aussi l'industrie dans les années 2000. Hein, c'est ce que je raconte dans le livre. Et puis ensuite, assez longtemps encore, pendant quelques années. Hein. Ça a basculé. Là, je pense qu'on a pivoté.
La bataille culturelle a été gagnée.
Alors, pas totalement, puisqu'ensuite, il faut que ça se traduise en comportement. Hein, mais au moins, le désir d'industrie est revenu. Et le consensus transpartisan sur le produire en France, on va dire, il est là maintenant. Et ça, c'est tout à fait nouveau.
À peu près sur tous les bancs.
À peu près sur tous les bancs. Il y a honnêtement unanimité nationale sur le sujet. Et c'est quand même la base. Hein. Ensuite, est-ce que on remonte suffisamment d'usines, etc. Bon, la réindustrialisation de la France, elle est possible si tout le monde s'y met. Hein, c'est-à-dire, évidemment, si les industriels le font, si les élus municipaux donnent des friches, si les électeurs des élus en question acceptent quand même qu'il y a un peu de camions dans les villages pour aller sortir la marchandise, si les écoles d'ingénieurs envoient massivement leurs élèves vers l'industrie plutôt que vers les professions du conseil ou de la banque, si les médias continuent d'en parler favorablement, donc ça s'appelle un contrat social. On est en train de le reforger, ce contrat social, petit à petit. C'est pas encore totalement gagné, hein, quand on voit les promos des écoles d'ingénieurs en particulier. Maintenant, en volumétrie, oui, il y a plus d'usines qui ouvrent que d'usines qui ferment. Et ce qu'il faut bien regarder, c'est les trois catégories d'usines. Il y a d'abord les grandes cathédrales. Les cathédrales, c'est celles qui ont été annoncées récemment à Versailles, à Tchouz-France, donc c'est les gigafactories.
Donc c'est les gigafactories, les batteries à Douvrin, dans le nord,
c'est
Dunkerque, etc.
C'est des usines qui font presque un kilomètre de long.
Il y en a quelques-unes.
Donc il y en a quelques-unes, c'est du semi-conducteur, vous l'avez dit, c'est la batterie, c'est de l'hydrogène, donc c'est des énormes usines qui elles-mêmes vont produire des masses qui représenteront des points de PIB. À chaque fois, hein. Donc des morceaux de la richesse nationale. Typiquement, l'extension de capacité à Crolles, elle va permettre...
Près de Grenoble.
Donc c'est Grenoble et CST Microelectronics. À elle seule, elle permettra d'exporter 4 milliards d'euros par an. Je ne sais pas si on se rend compte. Hein. Donc c'est des volumes gigantesques. Ça, c'est les cathédrales. Il en faut toujours. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de réindustrialisation, c'est la nouvelle génération des patrons de PME innovants. Et là, vous avez des jeunes quadras, femmes et hommes, qui embarquent de l'innovation comme jamais auparavant, et qui réinventent l'industrie dans les territoires. Et qui créent des extensions d'usines, un peu des néo-industriels, on va les appeler comme
ça. Des gens qui auraient créé leur entreprise ou leur établissement en Chine il y a 10 ans ou 15 ans, et qui aujourd'hui le font ici.
Alors c'est souvent des gens d'ailleurs dont les clients, qui étaient les grands groupes français, disaient maintenant, vous quittez le pays. Hein, vous allez en Pologne, hein, vous allez au Mexique, vous allez au Maroc. Beaucoup sont sortis de ces filières qui étaient des filières de délocalisation pour aller sur des nouveaux produits, comme le vélo électrique en particulier, ou des choses comme ça. Et qui se réinventent dans le territoire, avec la fierté du territoire. Ça, c'est très important. Et la troisième catégorie de réindustrialisation, c'est les start-up industrielles. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est des chercheurs qui viennent des universités, qui ont inventé des objets très complexes à fabriquer. C'est les hautes technologies françaises. La France est exceptionnelle en la matière. On fait aujourd'hui à peu près 400 start-up deep tech nouvelles par an.
Et à un moment, espérer qu'émerge un jour un géant mondial, voilà.
Alors, c'est comme ça qu'on démarrait tous les géants mondiaux. Et ces start-up-là, à un moment, elles se posent la question du pourquoi pas la France quand il s'agit de produire. Et la bonne nouvelle, c'est que la réponse peut être oui. Elle peut être oui. Il y a le terrain, il y a les ingénieurs, il y a le soutien public.
Vous dites il y a le terrain. On entend souvent quand on parle aux chefs d'entreprise, eh bien on ne trouve pas de terrain. Et même le gouvernement nous dit on aimerait attirer par exemple Tesla, mais on a besoin d'une friche. Et en fait, avec le zéro artificialisation des sols, en fait, il n'y a plus beaucoup de friche en France. Alors, quand on voit la taille de la France, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à comprendre.
Oui. En fait, il y a de mémoire à peu près 100 000 hectares de friche en France. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont à l'ouest et les friches sont à l'est de la France. C'était l'ancienne France industrielle. Hein. Et donc, il va falloir accepter de bouger quand même un peu. Hein, ça, c'est sûr.
Alors, si on reprend sur ce qui s'est passé dans les dizaines d'années précédentes, c'est-à-dire entre 1995 et, disons, 2015, avant que l'industrie redevienne, j'allais dire, à la mode. Vous avez, dans ce livre que je mentionnais tout à l'heure, vous avez dit « Tout le monde a son empreinte sur la désindustrialisation ». Je voudrais vous faire écouter la voix de l'ancien patron d'Alcatel, Serge Turuc, qui en 2001 défendait l'idée d'une entreprise et d'une France sans usine. Et puis très vite, un extrait de la réaction d'un syndicaliste à l'époque.
Donc le profil du salarié Alcatel a évolué d'une façon extraordinaire dans les dernières années. Il faut s'y adapter.
Et c'est justement pour ça que je vous dis, c'est toujours le problème de satisfaire l'actionnaire. Il faut qu'il y ait des bénéfices qui soient de l'ordre de 15 ou 20% pour que tout le monde soit content, alors qu'on a des activités qui sont tout à fait classiques, qui gagnent 5 ou 6%, et c'est ce qui se passe dans tout le monde de l'industrie, excepté les télécoms. Et comme là, ça fait baisser la moyenne, et bon, on préfère s'en séparer.
Qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est 2001, on est quand même assez loin de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé à cette période? Alors, on sent bien qu'il y a des explications plus libérales, puis il y a des explications de gauche. Alors, à gauche, on dit c'est la mondialisation, c'est l'avidité des entreprises sur leur taux de marge. On vient de l'entendre. À droite, on dira c'est l'impôt sur la fortune, c'est les 35 heures. Vous qui avez regardé de près en interrogeant une cinquantaine de chefs d'entreprise pour leur dire... Que s'est-il passé? Voilà. Quelle est la réponse que vous avez trouvée?
En effet, ce dont je me suis aperçu, et la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai fini par me dire que j'allais écrire un livre sur ce sujet-là, c'est que j'ai jamais cru au bouc émissaire. Donc je ne croyais pas au bouc émissaire de droite et je ne croyais pas au bouc émissaire de gauche. Et en effet, quand on interroge les acteurs, c'est-à-dire les hommes politiques et femmes politiques de l'époque, les syndicalistes de l'époque, les journalistes de l'époque, les économistes de l'époque, et surtout les patrons de PME de l'époque, on s'aperçoit que c'est toute la société française, que vous le disiez, qui a ses empreintes digitales sur la chute drastique de l'industrie française à l'époque, que nous n'avons pas retrouvé ni en Italie, ni en Espagne, ni en Allemagne, ni en Europe du Nord, et qu'on ne retrouve qu'aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Il y a trois pays. Alors pourquoi ces trois pays-là? Parce que ce sont les trois pays qui, pour des raisons qu'on peut échafauder, se sont dit que le libre-échange ne ferait aucune victime.
Donc il y a eu une sorte d'illusion collective.
Une espèce d'illusion collective où le modèle c'était en effet Apple qui n'avait pas d'usine et qui faisait tout fabriquer par Foxconn en Chine, où le modèle c'était Nike. On disait que l'essentiel c'était d'avoir des idées. Et la France était un pays d'idées. Un pays qui allait faire le design et qui ferait tout fabriquer à l'extérieur, ça ne posait aucun problème. Ce faisant, tout le monde a tourné le dos à l'industrie, et d'une manière générale, à tourner le dos à l'ensemble des métiers qui sont les métiers complexes de la main et du cerveau, quoi, donc les métiers du corps, finalement. En se disant que la France était faite pour être ce que Jean Fourassy avait lui-même prédit il y a très 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 longtemps, puisque c'était déjà dans les années 50, une société purement servicielle. Et alors, dans les familles, il s'est passé quelque chose aussi qui est important, c'est que la crise de l'industrie française des années 70 d'abord, puis 80, puis 90, avec toutes les images de fermeture de sites, de pneus en flammes, et toute cette, au fond, imaginaire d'une industrie qui était extraordinairement salissante et faite de dominations multiples et dure pour les corps, finalement. Ça s'est transmis dans les familles. Y compris, d'ailleurs, dans les familles de cadres, puisque dans l'industrie, à l'époque, vous avez quantité de cadres supérieurs des grands groupes industriels qui sont partis en pré-retraite à 55 ans. Et dont les enfants ont vu ce que c'était que d'avoir un papa à 55 ans en pré-retraite.
Donc c'était un peu déjà dans nos gènes, et finalement, il y avait un terrain tellement favorable que l'idée de l'industrie, parce qu'on n'était peut-être pas très fort non plus, qu'il y avait eu des saignées au cours des années 80, des années 70, puis des années 80, finalement, il y a eu un terrain un petit peu facile pour qu'il y ait un oubli de l'industrie.
Il y a eu un oubli, on était fort encore à la fin des années 90. Le déficit commercial français, il commence vraiment en 2003-2004. Tout d'un coup, c'est le toboggan, personne ne s'y attendait. Non, il y a eu une paresse aussi collective, c'est-à-dire que les gens se sont dit, bah, ça va aller, quoi. Les PME suivront, l'intendance suivra, mais pas du tout, l'intendance ne suivait pas, l'intendance mourait.
Et donc vous ne mettez pas tellement en cause finalement ce qu'on entend souvent plutôt à droite sur les 35 heures, l'ISF, ce que je mentionnais tout à l'heure.
Alors l'ISF a été une catastrophe entre 1995 et 2003. Entre 1995 et 2003, les entreprises familiales industrielles françaises ont massivement vendu à des fonds d'investissement parce qu'elles ne pouvaient pas payer l'impôt. Donc l'ISF a été une catastrophe, il faut le dire.
Et la suppression de... Alors on vient à l'actualité, la suppression de la partie de l'ISF sur les valeurs mobilières, sur le capital, a eu un effet depuis 2017 ou pas ?
Ah ben, incontestablement un effet. De toute façon, l'ISF sur le capital...
Parce que les études de France Stratégie ou d'ailleurs du Conseil d'analyse économique ne montraient pas qu'il y avait un effet statistique.
La vérité, c'est qu'il faut toujours revenir à la psychologie des acteurs. La psychologie des entrepreneurs, c'est le fondement... C'est le fondement. C'est l'entrepreneur qui décide d'investir ou de se projeter à l'étranger, etc. Donc, l'ISF est catastrophique pour la psychologie de l'entrepreneur. Moi, je m'arrête là. Alors, ensuite, s'il y avait un ISF européen, le problème ne se poserait pas. Mais un ISF limité à la France fait que les entrepreneurs partent.
Est-ce que cette baisse de l'industrie pendant 20 ans, 25 ans, a contribué à pousser les partis extrêmes en France? C'est-à-dire, est-ce que l'extrême droite, l'extrême gauche ont surfé un petit peu sur cette colère, à créer du ressentiment et de la colère?
Je pense que oui, parce qu'en fait, d'où vient la colère? Elle vient souvent du fait que ceux qui souffrent ont l'impression que personne ne voit qu'ils souffrent. Ils ont l'impression que, en fait, ils sont dans l'ombre des choses, et en particulier dans l'ombre d'une élite parisienne qui se projette, elle, dans la mondialisation et qui ne se retourne pas. Et c'est un peu ça qui s'est passé dans les années 2000, en effet. Et donc, ce ressentiment-là, qui est en fait de ne plus être considéré, ni même entendu, a produit une réaction populiste.
Deux choses pour finir cette première partie. Je voudrais avoir votre réaction sur deux sujets. La première, c'est sur les rôles respectifs de l'État et du secteur privé. L'État aide beaucoup les entreprises, mais doit-il forcer la main des acteurs privés? On va écouter Bruno Le Maire, qui c'était au début de l'été, qui demande à Carlos Tavares de relocaliser en France la production de la 208 électrique. On l'écoute.
Bien, je lui demande de relever ce défi. Je souhaite qu'il relève ce défi, de construire des petits véhicules électriques comme la i208 en France. Peut-être pas intégralement la production de i208, mais pourquoi pas une partie. Ce que je constate, c'est que Luca de Meo, chez Renault, construit un petit véhicule, la R5. Klaus Tavares est un grand industriel, que c'est un homme de défi. C'est juste une question de défi industriel.
Alors, est-ce que Bruno Le Maire a raison? Est-ce que c'est l'État qui doit tenir la main des industriels privés pour leur dire « vous devez fabriquer telle voiture ici et telle voiture là »
Si on veut être un grand pays industriel, il faut qu'il y ait un contrat collectif pour le désirer et le faire. Voilà. Alors ensuite, c'est des défis techniques qui sont considérables. Il faut bien voir qu'un véhicule chinois arrivé à Rotterdam, en entrée de gamme, il est entre -20 et -40% moins cher qu'un véhicule fabriqué en Europe continentale. Moi, je pense qu'une des portes qui doit être réouverte et qui était considérée comme absolument taboue dans ces années de la désindustrialisation libérale, c'est les droits de douane.
Qu'il faudrait réinstaurer de manière plus forte.
Mais je pense qu'à partir du moment où les véhicules européens sont taxés à 30% quand ils rentrent en Chine et les véhicules chinois à 10% quand ils rentrent en Europe, ça pose problème. Et donc ce sujet devra inévitablement être traité.
Une autre question, l'intelligence artificielle. Alors on dit souvent, ça va être destructeur d'emplois. Je vais vous faire écouter Yann Lequin, spécialiste de l'intelligence artificielle, qui est responsable chez Meta de ces sujets-là, c'est la maison mère de Facebook. On entend que l'IA menacerait 300 millions d'emplois dans le monde.
Ce n'est pas un nouveau phénomène, l'IA n'est pas qualitativement différent des autres transformations technologiques. Et ce que les économistes nous disent, c'est que la rapidité avec laquelle une technologie entre et pénètre la société, et l'économie en particulier, est limitée en fait par la capacité des gens à apprendre à l'utiliser. Ça a été vrai pour l'ordinateur, et en général, ça prend 10 ou 20 ans, plutôt 20 ans. La chose la plus importante, c'est de savoir si on est jeune, quel genre d'études faire. Si on est moins jeune, est-ce qu'on doit se reformer à utiliser les nouvelles technologies ?
Alors BPI France est proche des start-up, notamment industrielles, mais pas seulement. Il y en a un certain nombre qui sont sur ce secteur de l'intelligence artificielle. Votre pronostic ou votre anticipation des choses ?
Alors, bon, effectivement, on a annoncé le jour du Vivatech qu'on déployait une enveloppe...
Qui est le grand salon des technologies,
À Paris, il y a quelques temps, et qu'on allait créer une poche importante d'investissement capital dans les start-up de l'intelligence artificielle française. Sachant que, pour nos auditeurs, il y a un vrai sujet de fierté, c'est que les meilleurs ingénieurs d'intelligence artificielle dans ces modèles qu'on appelle les modèles LLM, les Large Language Models, sont français. Donc, on va mettre du capital chez eux, on va les aider à faire naître tout un écosystème d'intelligence artificielle. C'est donc qu'on y croit, évidemment. Moi, je pense que cette intelligence artificielle-là, elle va permettre de supprimer quantité de tâches qui sont des tâches ultra répétitives. Oui, elles fournissent de l'emploi aujourd'hui, mais c'est pas l'emploi satisfaisant, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ça fait partie de ces emplois dont les gens se plaignent aussi. C'est des emplois qui n'ont pas beaucoup de sens.
Donc c'est un basculement, comme on en a connu, de certains types d'emplois vers d'autres types d'emplois, et au total,
beaucoup plus créatif,
on sera plutôt gagnant.
C'est ce que je pense.
Dites-vous. Merci, voilà pour cette première partie. Dans un instant, vous allez débattre avec Nathalie Coutinet. Une pause musicale, comme on dit, et naturellement, si vous êtes au volant, soyez bien sûr prudent.
À nouveau détenus. On a beau toujours les agrandir. On a beau partir, en fait de soi-même on ne peut se désunir. S'enfuir, vouloir les distances, toujours les agrandir. On a beau partir, en fait de soi-même on ne peut se désunir.
C'était Louise Attaque, de soi-même.
L'écho de l'été, Dominique Seux, sur France Inter.
Nous retrouvons Nicolas Dufourcq, mais cette fois avec Nathalie Coutinet, économiste, maîtresse de conférences à l'université Sorbonne Paris Nord, membre des économistes atterrés. Alors, s'il faut résumer les choses, qui contestent le modèle dominant et les politiques libérales, plutôt à gauche, dites-vous, vous êtes notamment spécialiste de l'économie de la santé. On vous a beaucoup entendu sur les médias, dans les médias, au moment du Covid et des vaccins. Eh bien, votre première question à Nicolas Dufourcq.
Alors oui, j'ai entendu avec intérêt votre interview et j'ai aussi lu beaucoup de choses que vous dites, que vous avez écrites. Et vous parlez souvent aussi du rôle de la financiarisation hein, dans la désindustrialisation, si on se remet dans la désindustrialisation. Et si on reprend un petit peu la chronologie, c'est dans les années 90 finalement que les choses commencent à aller mal, hein, et vous citiez 2000 comme finalement la conséquence hein, sur le commerce extérieur de cette désindustrialisation. Mais ça correspond aussi à l'époque des grandes privatisations, hein, du démantèlement finalement des grandes entreprises françaises hein, qui n'étaient pas modernes dans la logique de la mondialisation libérale, mais qui avaient une pertinence économique hein, d'avoir, de regrouper différentes activités et les activités qui étaient les plus rentables financer celles qui pouvaient être en difficulté. Tout ce modèle a été détruit finalement par les privatisations. Et avec la financiarisation, il y a eu un recentrage des activités. Alors on peut prendre effectivement Rhône Poulain comme exemple, puisque c'est un exemple que je connais bien de la pharmacie, mais aussi CGE qui a été démantelé. Et puis avec le mythe hein, des entreprises sans usine. Et puis aujourd'hui, ben, on voit bien que ben, on a tout démantelé, on a tout cassé. Donc comment vous voyez le rôle de à la fois hein, ces privatisations et financiarisation qui finalement se sont produites dans la même période?
Tableau compliqué, en fait, hein, en effet, avec des privatisations qui ont parfois été réussies, par exemple Saint-Gobain, et d'autres qui ont, en effet, conduit à des éclatements, comme c'est le cas de la Compagnie Générale d'Électricité, que tout le monde regrette aujourd'hui, qui pourrait être aujourd'hui le Siemens français, hein, fondamentalement, puisque dans la CGE, il y avait Alstom, il y avait Alcatel, et il y avait tous les câbles, donc ça s'appelle aujourd'hui Nexans, pour partie, il y avait les câbles sous-marins, enfin, il y avait quantité d'autres choses, il y avait plein d'entreprises sont aujourd'hui d'ailleurs des très belles ETI françaises au nom anonyme. Alors, il y a eu par ailleurs des privatisations complètement ratées. Hein, c'était le cas en particulier de Péchinet. Péchinet, je le raconte dans mon livre, c'est vraiment l'histoire la plus triste de toutes. Hein.
Qui a été vendue aux Canadiens Alcan au début des années 2000, puis de démantèlement en démantèlement qui a disparu.
C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a quelque chose dans le caractère français aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Michel Rocard était intervenu à la tribune de l'Assemblée, pour dire qu'il interrompait son discours pour dire « Péchiné rachète Triangle ». Hein, qui était une entreprise d'emballage en aluminium. Hein. Donc Péchiné avait décidé de faire, au fond, ce que Saint-Gobain avait fait beaucoup plus tôt, qui était d'acheter de l'emballage plutôt que de se concentrer sur son core business. Alors que le core business de l'alu était en train d'exploser dans le monde entier avec l'essor de la Chine et des pays émergents. Donc Péchiné a fait un mauvais choix stratégique, a été privatisé là-dessus, il n'y avait plus d'argent dans les caisses, et donc Péchiné est parti, en fait, à la découpe. Hein. Et malheureusement. Donc aujourd'hui, dans le portefeuille de BPI France, il reste quelques éléments de Péchiné. Une entreprise s'appelle Constellium, par exemple, qui marche.
Ça veut dire que l'État français devrait être, selon vous, Nathalie Coutinet, Nicolas Dufour, être plus présent dans l'activité publique et la direction des grandes orientations stratégiques de la France.
Alors, je pense qu'effectivement, il faudrait une politique industrielle, mais j'y reviendrai après. Mais je pense quand même que, parce que vous avez beaucoup dit dans l'interview précédente, que c'était finalement une responsabilité collective. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est une responsabilité des décideurs. C'est une responsabilité d'une élite, effectivement, plutôt parisienne. Mais il y avait quand même beaucoup de salariés, beaucoup de syndicats qui se sont battus contre ces départs, contre ces privatisations. Une partie de la population aussi s'est battue contre ces privatisations qui, finalement, aujourd'hui, on voit bien... Alors, elles auraient forcément dû, hein, ces entreprises auraient dû s'adapter aux transformations économiques et le monde des années 90 n'est évidemment pas celui d'aujourd'hui. Mais... il y a quand même une responsabilité, là, je pense, politique, hein, très fortement politique. Et quand vous dites tout le monde est responsable, j'aimerais bien savoir qui est ce tout le monde, parce que finalement...
Oui, le tout le monde, j'entends bien dans votre bouche, c'est un peu facile. Voilà.
Bah, oui.
Écoutez, si je maintiens sur le fait que tout le monde, parce que les syndicats de l'époque, je les ai beaucoup interrogés dans mon livre, hein, aussi bien la CGT que la CFDT, avait une position qui était jusqu'au boutiste aussi. C'est-à-dire que toutes les positions radicales, en fait, conduisent en fait à la désindustrialisation. Il fallait être mesuré. Et encore une fois, les privatisations... Bon, les entreprises, il faut se souvenir que l'État les détenait à 100%, hein, à l'exception du groupe Dassault. Donc ça n'était pas tenable de garder à 100% des grands actifs industriels. Enfin, la France n'était pas la Chine de l'époque, ni même la Chine d'aujourd'hui. Donc il fallait bien privatiser. Ensuite, il y a eu des sujets de nomination. Et là, vous avez complètement raison. Il y a eu des nominations qui ont été erronées, avec des dirigeants qui portent des responsabilités très importantes. Et puis il y a des nominations qui ont été tout à fait réussies.
Vous dites aussi que, dans vos écrits, enfin, ou dans vos interviews, que la France s'est finalement peut-être engouffrée plus que d'autres pays dans cette financiarisation, dans ce modèle un peu blairiste, hein, qu'on avait voulu devenir une place financière importante. Or, il me semble, moi, qu'il y a une forte responsabilité de cette financiarisation qui a été peut-être plus... qui a plus imprégné la France. Hein, et là, je rejoins ce que vous dites. Mais là, il y a un rôle important dans le démantèlement des entreprises, parce que c'est le modèle de la valeur actionnariale, finalement, où il faut recentrer sur les activités principales pour être lisible, hein, pour les actionnaires, etc. Mais c'est aussi ça qui a conduit, hein, à ce démantèlement de l'industrie française.
Je peux dire que je suis d'accord avec ça ?
Vous êtes d'accord. Alors moi, j'aimerais bien vous entendre sur tous les deux sur la situation de l'industrie française aujourd'hui au point de vue de ses coûts de production par rapport aux autres pays. On sait qu'il y a des politiques qui sont mises en œuvre par le gouvernement de baisse des impôts de production, c'est-à-dire un certain nombre d'impôts qui les différencient des autres pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, l'un et l'autre ? Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce qu'on a aujourd'hui des problèmes encore de coût du travail en France ?
Aujourd'hui,
Nathalie Coutinet, puis Nicolas Dufour.
Bah, aujourd'hui, le coût du travail est plus faible en France qu'en Allemagne, puisque c'est toujours la référence, hein, qui est citée dans les livres. Alors c'est vrai qu'il était plus élevé précédemment, mais depuis une dizaine d'années à peu près, avec des mesures telles que le CICE, mais aussi la baisse, différentes aides aux entreprises.
Donc c'était nécessaire de baisser le coût du travail. Enfin, les coûts des entreprises, d'une manière générale, pas forcément.
On peut pas, comme ça a été dit très bien sur la voiture, on va pas s'en sortir en baissant uniquement le coût du travail, parce qu'on sera jamais compétitif avec la Chine, avec des pays d'Asie du Sud-Est ou même des pays du Maghreb. Donc cette bataille-là, elle est perdue, sauf à modifier notre niveau de vie et notre modèle français de manière considérable. Donc évidemment, il faut rester dans les normes de nos concurrents et de nos partenaires économiques, mais la baisse complète du coût du travail, travail. Et puis, vous avez dit aussi, vous avez cité le Keynes, hein, il y a aussi un problème de demande. Et que si on baisse trop le coût du travail, eh bien, il n'y a plus de demande pour racheter la production.
Donc, alors, la situation en termes de compétition vis-à-vis de nos partenaires ou de nos concurrents européens de l'industrie française.
Bon, bah le coût du travail en effet a retrouvé un niveau qui est un niveau qui rend la France compétitive face à l'Allemagne, mais ça la rend pas du tout compétitive face à l'Espagne, pas du tout, ou face au Portugal. Il faut avoir en tête quand même, par exemple dans l'industrie automobile, que le coût du travail espagnol il est du tiers. Je sais pas si les gens se rendent compte de ça. Hein. Donc c'est pas seulement le Maghreb, le coût du travail il est d'un septième, on va dire.
Mais est-ce qu'il faut viser d'atteindre le coût du travail de l'Espagne ?
Non. Ça n'est pas possible. Mais c'est bien un des problèmes de la I-208 fabriquée en France.
Vous en parlez tout à l'heure.
Oui, bien sûr. Donc il n'y a pas seulement un sujet chinois. Il y a un sujet également de compétition avec le sud de l'Europe, qui est incontestable.
Et votre réponse est plutôt vis-à-vis des pays extérieurs à l'Europe sur les droits de douane.
Oui.
C'est plutôt ce type de réponse.
Tout à fait.
Encore une dernière question peut-être.
Oui, alors on sait pas la politique industrielle, mais c'est la politique européenne. On sait pas beaucoup situé au niveau européen. Les Américains ont un Made in America, hein, c'est-à-dire qu'il faut acheter américain. Pourquoi on n'aurait pas un Made in Europe? Finalement, vous avez proposé d'augmenter les droits de douane. Ouais. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Mais pourquoi on va pas plus loin et que au niveau européen, on fasse pas un Made in America, par exemple? Pas made in Europe, en fait.
En fait, on s'en rapproche pas mal, hein, puisque, alors évidemment, tout ça est un peu technique, mais la Commission européenne et le Conseil des 27 ont fait passer une disposition il y a quelques temps, hein, quelques semaines, qui permet, quand un industriel européen se voit offrir un chèque énorme aux États-Unis pour implanter son usine, de présenter cette proposition américaine aux autorités européennes pour obtenir la même chose pour pouvoir rester en Europe. C'est quand même fort, ça. Hein. Et donc, quand les Américains proposent de l'argent made in, pour faire du Made in America, oui, vous venez en Europe, vous dites, voilà ce que je pourrais obtenir aux États-Unis, on va potentiellement vous proposer la même somme pour faire du Made in Europe. Hein. Donc l'Europe est en train tout de même, je trouve, de se réveiller et de sortir de ce qu'a pu être peut-être une partie de sa naïveté.
Donc on est plutôt sur le bon chemin et on assiste, oui, à quelque chose d'étonnant ce soir dans le studio. C'est une réconciliation entre le président, le patron de BPI France et les économistes atterrés. Merci à vous deux. C'est
je
la
suis
fin
pas
de
la
cette...
totalité des économistes atterrés.
Bien sûr. Voilà, c'est la fin de cet écho de l'été. Merci à vous deux, Nicolas Dufour, Fourque, Nathalie Coutinet. Merci à notre réalisateur Stéphane Combe, à la technique Loïs Moreau, à la recherche de son Laura Dumez et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation musicale. À la semaine prochaine, et vous pouvez retrouver cette émission naturellement et toutes celles qui l'ont précédée sur le site de France Inter à la rubrique L'écho de l'été. Bonsoir à tous.